Fallait attendre très très longtemps. Hein. Il y a même des fois, on attendait presque 1 heure, hein, ou peut-être même plus, je ne sais pas. Mais je ne me rappelle pas, mais je sais que oui, que ma mère disait, oh là là, j'ai attendu, j'en peux plus, j'ai mal aux jambes, j'en peux plus. Et puis, elle n'était pas la seule. Hein. Puis, elle était quand même privilégiée par rapport à d'autres personnes. Hein. Entre guillemets, hein, privilégié entre guillemets, parce qu'on était dans le commerce d'alimentation, il était supposé que nous avions autant de viande qu'on voulait. Mais non, c'était pas le cas. On faisait attention. On avait nos tickets comme tout le monde, quoi, comme tout un chacun, et on prélevait les tickets qu'il nous fallait, quoi. En tout cas, alors la viande, bon, ben, on donnait carrément tout à mon père, mais on n'allait pas dans 36 boucheries aussi, hein, ni charcuterie, parce que les charcuteries, alors je ne sais même pas comment ça marchait, parce que je ne me rappelle pas d'avoir vu un saucisson sur la table pendant la guerre. Hein. Nous aussi, tout en étant dans la boucherie, on a subi les restrictions. Mais disons qu'on se rendait compte qu'on était un peu des privilégiés par rapport aux autres, quoi, aux autres personnes. Puis on entendait autour de nous les gens et au magasin. Alors je vous dis pas, mon père, il entendait vraiment des choses épouvantables, quoi. Vous auriez pas des gens qui achetaient de la peau, qui voulaient acheter de la peau, mais lui, il voulait pas vendre de la peau. La graisse de la peau, il vendait pas ça, il donnait. Mais il y en a qui se faisaient payer, hein, sûrement. Hein, mais enfin, bon, chez nous, non, ça, c'était pas la moralité de mon père. Mais enfin, il y a des fois, il rentrait dans la cuisine, puisque la cuisine était attenante au magasin, ben, on voyait qu'il était triste, quoi. Alors, il y avait des personnes qui venaient lui demander humblement, qui attendait que les autres clients soient partis, pour demander à mon père qu'il leur donne des déchets. Et on appelait ça des raclures de plots. C'était quand il nettoyait le plot, la table de travail, qui était en bois, il raclait avec une raclette spéciale et il mettait de côté au fond. Alors, des gens achetaient ça il leur donnait pour les chiens, pour leur chien, leur chat, pour faire la soupe. Mais pendant la guerre, il y a des gens qui demandaient pour faire un bouillon de soupe qui ait un goût de viande quand même, parce que des os, des peaux, de la peau, des déchets, ça donnait quand même un goût de viande au bouillon. Ils ont exhibé des légumes dont on ne se servait plus déjà depuis longtemps, qu'on a remis en route. Donc ma grand-mère, qui était très inventive, elle avait concocté un gratin de rutabaga à la façon des pommes de terre. Elle préparait vraiment, c'est comme elle coupait ses lamelles de rutabaga. Et puis elle a fait ça aussi avec des topinambours. Ce n'était pas très commode parce que c'est un peu tourmenté comme légume, mais enfin ça fait rien. Elle coupait en petites tranches fines. Elle mettait de l'ail. Ben là, je ne me souviens pas qu'on ait eu des restrictions d'ail par contre. Hein. Alors elle faisait bien ça, elle tartinait bien son fond avec de l'ail. Elle mettait du beurre ou de la graisse, ce qu'on avait. C'est vrai que le beurre, ça nous a beaucoup manqué. La cuisine au beurre à Lyon, attendez, hein, c'était quelque chose. Hein. Alors ça a vraiment manqué, le beurre. Hein. Enfin, elle tartinait elle graissait son plat, puis elle alignait bien ses tranches, et ma foi, c'était bon. C'est là que ma grand-mère a adapté des recettes. On mangeait plutôt des bons morceaux, mais les bons morceaux étaient beaucoup plus demandés presque que les. Comme pot-au-feu, par exemple, c'était vraiment très très bien le pot-au-feu, parce qu'en plus vous aviez le bouillon. Ça vous faisait 2 repas. Vous aviez la soupe, vous aviez le repas de midi et vous aviez la soupe. Tandis que quand vous faites cuire un morceau de viande comme ça, vous n'avez rien, vous avez le jus que vous arrosez votre morceau de viande, c'est tout. Hein. Mais bien sûr que les ménagères se sont. Entre guillemets, les ménagères se sont adaptées et ont bien été obligées. Et puis des légumes qu'on n'avait pas l'habitude de manger, des légumes qu'on considérait comme quelque chose de pas agréable. Par exemple, il y en avait une qui pleurait parce que son chien, là, ils avaient pleuré, ils allaient, là, son papa allait tuer son chien le dimanche en forêt parce qu'il ne pouvait plus le nourrir. Il leur prenait trop de nourriture, quoi, il ne pouvait pas. Alors, j'ai raconté ça à midi en revenant de l'école. J'ai raconté ça à mon père. Oh là, mon père s'est levé, il m'a dit, tu vas lui dire que je lui donnerai toutes les semaines quelque chose pour son chien. Alors il raclait des pots, des bouts de doses. Nous, on gardait tout pour le chien de ma copine. Et comme ça, là, on n'a pas tué son chien. Enfin, c'est quand même une conséquence de la guerre. Oui. Je ne sais pas, on ne nous a jamais dit qu'il y a des petits-enfants qui mouraient de faim. Mais qu'on dise qu'il y avait un chien qui mourait de faim, qu'on allait tuer parce qu'on n'avait pas de quoi lui donner à manger. Le repas de fête, c'était le gigot. Chez mon oncle et ma tante, alors que, mais qui habitait la campagne, il était meunier en pleine campagne. Il avait un élevage de poules, d'oies, de dindons, de tout ça. Alors mon oncle, par exemple, nous mettait un colis par le factage qui faisait le village jusqu'à Lyon. Et le dépôt était Grande Rue de la Guillotière. Et nous étions au coin de la rue Sébastien-Griff et de la rue Saint-Michel, donc pas très loin. J'ai beaucoup passé du temps chez mon oncle et ma tante, hein, pour des raisons de santé, qui étaient quand même un peu liées à la guerre aussi, hein, parce que j'ai eu froid. Et moi, j'étais très frileuse, très, très douillette, très frileuse. Et j'ai eu un petit truc pulmonaire. Donc, on voulait m'envoyer au préventorium. Et ma tante, à la campagne, a dit non, elle n'ira pas au préventorium. Moi, je vais la prendre à la maison et puis je vais la retaper, moi. La bonne nourriture, parce qu'alors là-bas, vraiment, il avait un élevage de poulets, de dindons. Il avait tout, des dindons, tout ce qu'on peut avoir, des pigeons, tout. Donc, on n'a jamais manqué de viande. Hein. Et puis, il y avait de la farine. Ma tante, qui était la fille d'un boulanger, elle s'est mise à faire le pain. Je la revois encore, les bras nus, en train de faire son pain. C'est incroyable de l'avoir fait. Des bons gratins qui cuisaient dans un four à charbon. Ça, je ne retrouve pas la nourriture, si vous voulez. Même si je fais moi-même un gratin, je ne retrouve pas. Maintenant, c'est peut-être une impression de gamine. Hein. Je ne retrouve pas l'impression de manger que j'avais à l'époque. Aussi bien quand ma grand-mère faisait aussi un fourneau. Le gratin de pommes de terre, il cuisait sur le dessus du fourneau. Depuis le matin, c'était préparé. Alors, quand elle le mettait au four, les pommes de terre étaient déjà toutes confites dans le lait. Et la crème, bien sûr. Si vous voulez, je ne retrouve pas l'impression de gratin de pommes de terre de cette époque-là. Le marché noir, on a connu ça qu'un peu plus tard, quand même. Ce n'est pas tout de suite au début, hein, le marché noir. Bien sûr, les gens se sont organisés. Alors oui, par exemple, on courait à la campagne le dimanche pour aller acheter des œufs. Alors, ben, le prix qu'on nous demandait, on le donnait. C'était nous qui étions chargés, les deux filles, d'aller courir la campagne. Donc, on allait chez mon oncle dans l'Isère et on courait la campagne pour avoir des œufs. Alors, est-ce que vous auriez des œufs? Alors, oui, ben, je pouvais vous en donner 6. Oui, puis alors, un autre endroit, bon, ben, je vous en donne 3. C'était comme ça, c'était presque à l'œuf, à la pièce, presque. J'ai fait beaucoup de kilomètres en vélo pour aller chercher ce qu'il fallait. Puis les fermes à la campagne, il y avait du monde. Les fermiers ne s'arrêtaient pas. Il y avait des gens qui prenaient un autobus ou leur vélo ou tout ce qu'on pouvait faire comme moyen de locomotion. Hein. Il y a des gens qui passaient leur dimanche à aller à la campagne. Puis à l'entrée de la gare, on avait des contrôles. Alors moi, je me rappelle qu'une fois, on était revenu donc de la campagne, on avait ramené des pommes de terre et de la farine. Alors mon père avait la farine dans sa valise. Et puis, dans le train, il me dit, tiens, tu te charges des pommes de terre et tu prends un air dégagé quand tu passes devant le contrôle, il me dit. Tu prends un air dégagé. Alors j'ai pris un air dégagé pour... faut passer devant le contrôle. Et effectivement, il ne m'a pas regardé, le contrôleur, il ne m'a pas regardé, mais il a fait ouvrir les sacs à mon père. Je ne sais pas, mon père a dû lui dire, j'ai trois enfants, c'est ça. Il a un peu lorgné le sac de farine, j'ai mon frère qui est meunier. Il a dû attendrir le gars, quoi. Oh, il y en avait qui se laissaient attendrir, mais il y en avait, c'était des peaux de vache. C'est vrai que quand il m'a dit « prends un air dégagé », j'ai pris un air dégagé, mais enfin, je ne savais pas trop bien ce que ça voulait dire non plus, hein, avec mon sac de farine. On a connu un Alsacien qui s'était réfugié à Lyon et qu'on a logé, qu'on a caché, parce qu'il était recherché par la Gestapo. Et mon père l'a caché pendant longtemps, et puis dans le sous-sol du magasin. Et puis, il a été quand même arrêté. Mais alors, sur les derniers jours, il a été déporté. Alors, il attendait que le soir qu'il n'y ait plus personne. Et de la cave, il montait au grenier pour se coucher. On le nourrissait. Et on avait une amie qui était boulangère. Alors, elle venait, elle apportait aussi du pain. Puis, il avait un peu de viande cuite que ma mère faisait cuire pour lui. Puis on lui faisait cuire des légumes. On l'a nourri pendant presque un an et demi, hein. Enfin bon, on ne l'a pas revu après. Donc c'était après la guerre. Il y avait encore des restrictions. Et un jour, alors j'avais une cousine qui était partie avec son mari. Il s'était expatrié à Buenos Aires parce que lui, il était italien et il avait fui le régime de Mussolini. Et donc ils sont partis là-bas. Donc, un jour, elle entend dire, là-bas, elle entend dire que les Français mouraient de faim. Alors, elle était très, très liée avec ma mère, presque deux sœurs. Ah, oh, ma Renée, ah, oh, pourvu qu'il n'arrive rien. Enfin bon, vous voyez, toutes les lamentations. Elle décide d'envoyer un colis alimentaire. Alors... elle ne se rappelle plus sûrement que mon père était boucher. Quand on a reçu le colis, j'ouvre, c'est moi qui ai ouvert le colis, et je trouve un jambon en boîte, Olida en plus, Olida c'était à Vénissieux ou à Gerland, vous voyez. Donc un jambon, alors bien la forme du jambon ovale comme ça, la boîte, je revois comme si c'était hier, hein. Alors je dis, maman, Janine nous envoie un jambon. Elle me dit, oh, ben c'est bien d'elle, ça. Pour caler la boîte, elle avait mis du café vert. J'ai dit, mais maman, c'est calé avec des graines. Alors elle vient voir, elle me dit, mais du café. Elle fait comme ça. Et en fait, ça leur a fait plus plaisir, le café qui calait la boîte, parce qu'elles l'ont grillé avec ma grand-mère, elles ont grillé le café, parce qu'on manquait cruellement de café. Alors après, quand ils sont revenus en France et puis qu'on lui a raconté, alors elle a dit, si j'avais su, je vous aurais envoyé la pleine boîte de café. Enfin, c'est une des choses marrantes que je retiens de la guerre, moi, que j'ai retenue dans ma jeunesse.
C'est rigolo.
Ah, il n'y a plus un Rutabaga ou un Topinambour qui sont rentrés à la maison. Non. Dès que la guerre a été finie, les habitudes sont revenues, pommes de terre. J'ai toujours pas envie d'en manger, puis j'en achèterai certainement pas.